Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Vous m'avez rarement entendu dire qu'il y avait des leçons à tirer d'une affaire criminelle. Je n'aime pas trop ceux qui, pour raconter un crime, ont besoin de se cacher derrière le prétexte d'un phénomène de société. Mais l'histoire du jour sera une exception, car il s'agit de l'affaire Stéphane Moitoiré, qui durant l'été 2008 à Lagnieu, dans l'Ain, assène 44 coups de couteau à un petit garçon de 11 ans, prénommé Valentin. Et tout l'intérêt de cette histoire se résume dans la décision de la juge d'instruction de le renvoyer devant la cour d'assises pour le juger, alors que Stéphane Moitoiré, de toute évidence, est un malade mental. Mais à sa décharge, vous verrez que dans cette affaire, les experts psychiatres, au nombre de 10, n'ont pas donné de leur profession le meilleur visage. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour dire si oui ou non Moitoiré était schizophrène. Et j'ai donc fait appel à l'un de ces psychiatres pour le débrief tout à l'heure, le docteur Paul Bensoussan, que je prends pour l'un des meilleurs experts français. Bonjour à vous.
Bonjour Christophe Ondelat.
J'aurai donc besoin de vous tout à l'heure. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, on de la traconte.
Cette histoire commence par un cauchemar. Durant l'été 2008, à Lagnieu, dans l'Ain, Michel garde le petit garçon de sa copine Véronique, Valentin, 11 ans. La mère est en instance de divorce, l'idée c'est de lui changer les idées. Et comme chez Michel, il y a un vélo à sa taille, Valentin en fait du matin au soir. Et le soir du 22 juillet, il est dans la rue, derrière la maison, et en début de soirée, il disparaît. Michel et ses fils partent tout de suite à sa recherche. C'est l'un de ses fils qui trouve d'abord le vélo et juste à côté Valentin, au pied d'un portail, couvert de sang, des plaies sur tout le cou. Il n'est pas mort, il respire encore, mais le temps que les pompiers arrivent, son petit cœur s'est arrêté. Pendant une heure, ils essayent de le ranimer, mais un peu avant 1h30 du matin, on les voit ranger leur matériel. Il n'y a plus rien à faire. Valentin est mort. Mort de quoi ? Au début, les médecins pensaient à un chien, à un gros chien qui aurait sauté à la gorge du gamin. Toutes les blessures sont sur le cou et sur le torse. Elles sont profondes. Ça ressemble à des morsures. Et c'est d'ailleurs ce que les gendarmes disent à la mère quand ils vont la réveiller en pleine nuit. Madame, nous sommes désolés. Votre fils Valentin a été attaqué par un chien. Il est décédé. Et dès que le jour se lève, les gendarmes se mettent donc à chercher un chien. Un chien du quartier qui se serait échappé. Ils trouvent quelques grands chiens, mais les propriétaires sont formels. Ah, mon chien ? Ah, mais hier soir, il était enfermé. Ah, ça, je suis sûr. Et on voit débarquer à Lagnieu les premiers journalistes. Cette histoire de chien qui tue un enfant en pleine torpeur estivale, c'est une belle affaire. Mais ils sont à peine arrivés que l'histoire change complètement de nature.
Dans l'affaire de l'enfant retrouvé mort hier soir à Lagnieu dans l'Ain, le garçon de 11 ans a été tué à l'arme blanche. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le procureur de la République de Bourg-en-Bresse. Émilie Nora, vous avez assisté à sa conférence de presse. On se dirige peut-être maintenant vers une investigation de grande ampleur.
Oui, et on pourrait bien s'acheminer vers une enquête de grande envergure. Selon le procureur de Bourg-en-Bresse, Valentin a subi de nombreux coups portés par arme blanche, principalement à hauteur de la gorge et du thorax. Les plaies les plus profondes mesureraient jusqu'à près de 10 cm de long.
Valentin n'a pas été tué par un chien. Il a été tué à coups de couteau. C'est un meurtre d'une sauvagerie incroyable. Rendez-vous compte, il y a du sang jusque dans les rues voisines. Sur le sol, sur les murs, il y en a même sur la devanture du pharmacien et sur celle du fleuriste. Les gendarmes, évidemment, font des relevés. Ils analysent ce sang. Ça n'est pas le sang de Valentin. Donc, c'est le sang de son agresseur. Et c'est un bon point pour cette enquête qui débute. Le tueur du petit garçon a signé son crime. Il a laissé son ADN partout.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle terrible. L'assassinat fin juillet 2008 à Lagnieu dans l'Ain du petit Valentin, 11 ans. Une histoire que je vais débriefer tout à l'heure avec un psychiatre, le docteur Paul Bensoussan. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le petit Valentin est retrouvé agonisant dans une rue proche de la maison où il passait ses vacances, à Lagnieu. Au début, en raison de nombreuses plaies au cou, les gendarmes pensent que l'enfant a été attaqué par un chien. Mais le médecin légiste est formel, Valentin n'a pas été tué par un chien, mais à coups de couteau. Il semble que son agresseur se soit blessé, il a laissé des taches de sang dans tout le quartier. 44. Le médecin légiste a finalement compté 44 coups de couteau sur le corps de Valentin. Il en faut, hein, de la rage pour donner 44 coups de couteau à un enfant de 11 ans. Et les plaies sur ses bras et sur ses mains montrent que le gamin a essayé de se défendre. Alors qui est le sauvage qui a fait ça? On passe l'ADN isolé dans les traces de sang que le tueur a laissé partout au fichier des empreintes génétiques. Inconnu. Au début, faute de mieux, les gendarmes s'intéressent à la famille, les parents, les amis des parents. Mais ça ne dure pas longtemps. Car à Lagnieu, on pense avoir vu le tueur.
À 23h50, 55, sur la commune de Lagnieu, sur la place en face.
Il était comment ?
1m80, dégarni, en short, avec lampe frontale, une dégourde sur lui, sac à dos et... Mais à 23h50, avec un sac à dos et une lampe frontale, pourquoi? Ben, je connais un peu tout le monde, ouais, mais cette personne ne me paraissait pas du coin.
Deux sœurs qui rentraient de chez leur mère, tout près des lieux du crime, l'ont vu aussi. Louche, drôle de dégaine. Il avait le regard vide. Oui, vide. Mis bout à bout, tous les témoignages permettent de tracer un portrait assez précis. 1m75, assez costaud. Le type était en sandales et en short. Il portait un t-shirt brun. Et il avait une tête de Sud-Américain. Il n'y a qu'une seule caméra vidéo à Lagnieu. Elle est installée juste au-dessus du distributeur de billets. Les gendarmes saisissent l'enregistrement. Et à 23h37 précise, on voit l'homme passer en short. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais on voit qu'il a un vêtement noué autour de la taille. Et donc les gendarmes, ils sont maintenant 100 sur cette affaire, se mettent à chercher un rôdeur, un routard. Ils trouvent un toxicomane connu de la justice pour avoir agressé un enfant. Ils l'arrêtent, ils l'interrogent. Il n'était pas à Lagnieu le soir du drame. On demande aussi à toutes les brigades de gendarmerie du département de faire remonter tous les contrôles d'identité qui ont pu paraître suspects depuis le début du mois. Et la brigade de Léman signale avoir contrôlé un drôle de couple.
Ah ben la fille était complètement perchée. Elle s'est présentée comme la princesse des esprits divins. Et le type n'était pas plus clair, il nous a dit qu'il était le secrétaire de Sa Majesté.
La fille a aussi dit qu'elle était une amie du président Sarkozy. Et le type a tenu des propos incohérents sur la galaxie et l'univers. Ils disaient tous les deux qu'ils étaient australiens et qu'ils parcouraient la France à la recherche d'esprits divins. Et vous avez leur identité, hein, ces deux individus ?
Oui, bien sûr. Alors lui s'appelait, attendez, Stéphane Moitoiré, 39 ans, et elle, Noëlla Ego, 49 ans.
Un automobiliste a vu les mêmes. Il les a pris en stop.
Ah ben... Je peux vous dire qu'ils n'avaient pas une super hygiène, hein. Et puis ils voyageaient avec leurs affaires dans des sacs poubelles. Ils vous ont parlé au cours du trajet. Écoutez, l'homme était assis sur le siège passager. Il m'a tenu un discours qui tenait pas debout du tout, hein. Comme quoi les gendarmes, les notables français étaient des tueurs d'enfants, des violeurs de femmes, etc. Et d'ailleurs, il m'a expliqué qu'il allait bientôt mener une opération en hélicoptère contre la gendarmerie de Lagnieu, pour les punir de leurs actes. Et d'après lui, les gendarmes en question appartenaient à sa liste noire. Et vous les avez laissés où ? Ah ben, je les ai déposés à Saint-Sorlin-en-Bugey. Les gendarmes filent donc d'Ardard à Saint-Sorlin. Et ils tombent sur le maire qui les a vus lui aussi. Mieux, il leur a parlé. Le type l'a interpellé en pleine rue. Vous savez ce qu'il m'a demandé ? Il m'a demandé qui s'occupe du catéchisme ici. Il parlait tellement mal, je lui ai demandé de répéter. Il était très agité, il n'avait pas l'air normal. Qui s'occupe du catéchisme ici ? Les gendarmes comprennent assez vite que ça n'était pas le catéchiste qu'ils cherchaient. Ils cherchaient un endroit pour dormir, une salle paroissiale. Et là, ils apprennent qu'une bénévole leur a ouvert l'ancien presbytère. Et c'était quand précisément ? Ah ben c'était dans la nuit du 28 au 29 juillet. La nuit du crime. La nuit où Valentin a été massacré. Les deux oiseaux ont dormi à quelques kilomètres de l'endroit où le gamin a été égorgé. Donc tout semble indiquer que ce sont eux qui ont tué l'enfant.
Europe 1, on te la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui date de l'été 2008, le meurtre d'un petit garçon de 11 ans, Valentin, à Lagnieu, dans l'Ain. Une histoire que je vais débriefer tout à l'heure avec un psychiatre, le docteur Paul Bensoussan, et vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi. Dans les jours qui suivent la découverte du corps, les gendarmes de la section de recherche de Lyon se mettent sur la trace d'un couple d'originaux aperçus dans les environs le soir du meurtre. Ils ont été contrôlés, ils s'appellent Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego. Et de l'avis de tous ceux qui les ont croisés, ils tiennent des propos incohérents et seraient des malades mentaux. Ils ont dormi chez le curé de Saint-Sorlin le soir du meurtre. Ils ont donc sans doute laissé des traces, et notamment leur ADN. Les gendarmes vont voir. Et des traces, ça, il y a des traces. Il y a des traces de sang sur la porte, il y a de l'eau sur le sol comme s'ils avaient nettoyé, il y a des bougies éteintes posées sur des chaises. Et maintenant, eh bien, il suffit de comparer ces traces ADN à celles retrouvées sur la scène de crime. Et si ça match, on sera certain que c'est eux. Mais est-ce qu'on attend les résultats pour les arrêter ? Non, bien sûr. Un mandat d'arrêt est lancé, accompagné de deux portraits robots. Et ça ne traîne pas, quelqu'un les a vus faire du stop loin de Lagnieu, dans l'Ardèche.
Dans l'enquête sur le meurtre du petit Valentin, les gendarmes ont mis la main hier sur le suspect principal, Stéphane Moitoiré, un marginal de 39 ans, et sa compagne, Noëlla Ego. Leur portrait robot avait été diffusé en début d'après-midi hier, et ils ont été arrêtés sans violence quelques heures plus tard en Ardèche. Des automobilistes qui les avaient vus faire du stop ont donné l'alerte.
Ça y est. Ils ont été arrêtés et les voilà en garde à vue. Et d'entrée, les gendarmes remarquent que Moitoiré est blessé à la main gauche. Selon les médecins, la blessure remonte à il y a 5 jours, c'est-à-dire au jour du meurtre de Valentin. L'interrogatoire commence. Chacun dans une pièce, chacun face à un gendarme.
Vous faites quoi dans la vie, monsieur Moitoiré ?
Je suis en mission divine.
Vous faites quoi dans la vie, madame Ego ?
Je suis présidente des grandes missions divines, et à ce titre, on m'appelle Sa Majesté, ou Son Excellence.
Et je dois vous appeler Sa Majesté ?
Oui, monsieur.
Sinon, vous vous exposez à une forte amende, 5 milliards d'euros. Même un pape me doit ce respect. Comme vous faites votre travail, je verrai si je vous envoie cette amende.
Voilà le genre de propos que les deux oiseaux tiennent au début de leur interrogatoire. Et quand on leur demande où ils étaient le soir du crime, ils répondent tous les deux à la cure de Saint-Sorlin. Ils n'ont pas bougé. Et ça dure comme ça toute la première journée de garde à vue. Les gendarmes apprennent que ça fait 20 ans que ces deux-là vivent ensemble.
Ils n'ont jamais eu de téléphone, jamais eu de carte de crédit. Ils font du stop, ils se font héberger de ci, de là. Ils vivent de l'aumône qu'on leur fait. Au bout d'une journée de garde à vue, les gendarmes posent sur la table tout ce qu'ils ont réuni comme éléments à charge contre eux. Réponse de Noé Laigo.
Oh ben c'était sans doute des clones qui ont commis le crime. Ils ont voulu nous gêner dans notre mission divine.
Les gendarmes apprennent aussi que le duo a eu un enfant, une petite fille. Noé Laigo a d'ailleurs du mal à se souvenir de son prénom. Il leur a été retiré par la DAS, trop occupé par leur mission divine. Et c'est à ce moment-là que tombe le résultat des comparaisons ADN. Et c'est bien lui, c'est Stéphane Moitoiré qui a tué Valentin. Le sang retrouvé sur la scène de crime est le sien.
Monsieur Moitoiré, comment est-ce que vous expliquez qu'on retrouve votre ADN sur la scène de crime? Oh ben, ça doit être un clone. Il y a, figurez-vous, 250 milliards de clones de ma personne sur la Terre. Alors vous voyez.
Au deuxième jour d'interrogatoire, c'est finalement Noé Laigo qui craque la première.
Stéphane était très en colère ce soir-là. Contre la gendarmerie qui nous avait contrôlés, contre l'État et contre la mairie. On s'est disputé. Il m'a dit qu'il était temps que cette mission se termine et qu'on devrait faire un retour en arrière.
Un retour en arrière? Vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit?
Ben, c'est un concept que j'ai créé. C'est pour interrompre une mission. Il s'agit de créer un incident, en l'occurrence en tuant quelqu'un.
Et Stéphane Moitoiré vous a parlé ce soir-là de procéder à un retour en arrière?
Ah oui? Oui, je lui ai dit que c'était une bonne chose, parce que moi aussi, j'en avais marre de cette mission.
Et là, elle raconte qu'il s'est absenté une heure, qu'il a quitté la cure, qu'il est parti tout seul et qu'il est rentré couvert de sang. Elle lui a demandé ce qui s'était passé, il lui a dit qu'il avait tué un enfant. Voilà, Noé Laigo a craqué. Et à la fin de son audition, elle signe le procès-verbal de son nom. Elle n'écrit pas comme elle l'a fait jusque-là, « Sa Majesté ». À la fin de cette garde à vue, ils sont mis en examen tous les deux, Moitoiré pour assassinat sur mineur de moins de 15 ans, avec acte de barbarie, et Noé Laigo pour non-empêchement et non-dénonciation de crime. Sauf qu'à partir de là, vous vous en doutez, va se poser une autre question. Ces deux-là ont des allures de malades mentaux. Ils ont déliré pendant des heures devant les gendarmes. Alors sont-ils responsables pénalement? Est-ce qu'on pourra les juger devant une cour d'assises? Ou est-ce qu'ils relèvent de l'hôpital psychiatrique?
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui remonte à l'été 2008. L'assassinat de 44 coups de couteau d'un petit garçon de 11 ans, Valentin. Un couple a été arrêté, Noé Laigo et Stéphane Moitoiré, deux routards illuminés qui se prétendent en mission divine. Noé Laigo a raconté que le soir du crime, Moitoiré s'est absenté une heure et qu'il est revenu couvert de sang. Le juge les a mis en examen. Il faut maintenant répondre à une question. Leur état mental est-il compatible avec un procès d'assises ou faut-il les déclarer irresponsables sur le plan pénal? C'est pour ça que dans un instant, j'ai fait appel à un expert psychiatre, le docteur Paul Bensoussan, qui a eu à se prononcer sur le cas Moitoiré pour débriefer cette histoire. La première à apporter son grain au débat est la propre mère de Stéphane Moitoiré.
Si Stéphane, si vraiment il l'a fait, il ne l'a pas fait sciemment. Il se sentait persécuté, quand on lui parlait, il répondait par chuchotement, parce qu'il était espionné. Quand ils étaient sur la route, il disait que des avions leur rasaient la tête, que les voitures qu'on voulait les écraser, qu'on voulait les tuer, qu'on en avait après eux. Pour moi, il est à 100% irresponsable de l'acte. Si c'est lui qui l'a commis, il est totalement irresponsable de l'acte.
Stéphane Moitoiré et Noé Laigo ont déliré pendant 20 ans. Ils n'ont jamais été hospitalisés. Jamais. On a retrouvé quelques-uns de leurs écrits. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est elle, Noé Laigo, qui apparaît comme le penseur délirant du duo. Lui se remplissait de ce qu'elle disait. Elle faisait vivre un monde où se côtoyaient Luke Skywalker, la reine d'Angleterre et Dark Vador. Il devient donc urgent pour le juge d'instruction de répondre à la question. Sont-ils, oui ou non, des malades mentaux? L'un et l'autre. Et donc, la juge se tourne vers des experts psychiatres. Trois experts. Et elle leur pose la même question. Moitoiré et égaux relèvent-ils de l'article 122-1 du Code pénal? Leur discernement était-il aboli par la maladie au moment du meurtre de Valentin? Si la réponse est oui, alors il n'y aura pas de procès et les deux fileront en hôpital psychiatrique. Les trois psychiatres répondent que Noé Laego est responsable. Mais concernant Stéphane Moitoiré, ils divergent. Et au lieu de rendre un rapport commun, un rapport de consensus comme c'est l'usage, ils rendent deux rapports différents. Le docteur Paul Bensoussan diagnostique chez Moitoiré une schizophrénie paranoïde. C'est la plus grave des psychoses. Et pour lui, c'est clair, il est irresponsable. Il n'a aucun doute là-dessus. Il ne peut pas y avoir de procès. Mais les deux autres experts psychiatres ne sont pas d'accord. Il n'est pas schizophrène. La preuve, il a nié son crime devant les gendarmes. Et ensuite, il s'est enfui. Les schizophrènes ne font pas ça. Donc son discernement n'était pas aboli, il n'était qu'altéré. Et donc, il peut y avoir un procès. Pour la juge d'instruction, reconnaissez que c'est un casse-tête. Alors elle sollicite un deuxième collège de trois experts psychiatres. Et eux, ils sont unanimes, Moitoiré et schizophrène. Il est irresponsable. La juge sollicite alors un troisième collège de psychiatres experts. Et là, on hallucine, ils disent tous les trois que Moitoiré n'est pas schizophrène. Et donc la juge fait deux colonnes, à gauche les psy qui disent qu'il est schizophrène, ils sont quatre, à droite ceux qui disent qu'il n'est pas schizophrène. Ils sont six. Ils sont plus nombreux. Et donc, elle décide de renvoyer Moitoiré devant la cour d'assises. Et la maman de Valentin, qui réclamait ce procès, est soulagée.
Ça a été vraiment un énorme soulagement. Vraiment un poids en moins sur les épaules. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. On n'a jamais parlé de vengeance. Le fait que la mémoire de Valentin soit honorée, respectée, ça sera déjà un trait de tiré par rapport à cette douleur qui nous a tant accablés pendant 22 mois. Bien sûr qu'elle sera tout le temps présente. Ça va être un procès pour Valentin, mais c'est le procès qui va rassurer tout le monde.
Et donc, le 5 décembre 2011, s'ouvre à Bourg-en-Bresse le procès de Stéphane Moitoiré et de Noëlla Ego pour le meurtre du petit Valentin. Dans le box, Moitoiré ressemble à un zombie. Il a la tête penchée, il a nonne. Et elle a le regard totalement figé. Et le débat « sont-ils fous ou pas ?» est au cœur du procès. Avec d'un côté les avocats de Moitoiré, maître Berton et Delarue, pour qui, c'est clair, leur client est fou. Et de l'autre, Gilbert Collard, l'avocat des parents, qui concède qu'il est déséquilibré, mais qui constate qu'il est conscient de ce qu'il a fait. La suite ressemble à une sorte de congrès de psychiatrie. Un affrontement entre deux races de psychiatres, auxquels sans doute les jurés ne comprennent rien, ou pas grand-chose. Et à la fin, l'avocat général qui depuis le début penche pour la responsabilité de Moitoiré, donne ses réquisitions.
Je retiens que M. Moitoiré avait un discernement altéré au moment des faits. Et je demande donc en conséquence 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Concernant Mme Ego, je demande de 16 à 18 ans de réclusion criminelle.
Les avocats de Moitoiré ont beau plaider ensuite qu'ils n'ont aucune raison d'être là, qu'on ne doit pas juger les fous et qu'il faut envoyer Moitoiré à l'hôpital psychiatrique. Le verdict tombe. Stéphane Moitoiré est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Et Noëlla Ego est condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
font appel. Il y a un deuxième procès à Lyon, en novembre 2011. À ce procès, Moitoiré apparaît très différent. Il a doublé de volume, il est énorme, et pour parler, il parle. Il parle et il parle. Il est en plein délire. Et il commence par dire « Je ne suis pas fou ». Ses avocats se disent « Enfin, ça va se voir. Les jurés vont voir qu'il est complètement frappadingue. » Eh bien non. À la fin, le verdict tombe. Moitoiré est condamné à 30 ans. Noëlla Ego à 4 ans. Elle a déjà fait 4 ans de détention provisoire. Elle est donc libre. Et Stéphane Moitoiré retrouve sa cellule à la prison sans aucun suivi psychiatrique particulier. Voilà donc pour ce récit qui sera bien intéressant de débriefer dans un instant avec l'un des acteurs de ce congrès de psychiatrie qui a eu lieu par deux fois devant la cour d'assises, le docteur Paul Bensoussan, qui est sûr de son coup. Moitoiré était schizophrène et on va tenter de comprendre comment il a pu être jugé.
Jusqu'à 15h, vous êtes avec Christophe Ondelat qui vous raconte aujourd'hui l'histoire criminelle du petit Valentin retrouvé sans vie dû à 44 coups de couteau. C'est l'affaire Moitoiré.
Europe 1, Ondelat raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui une affaire criminelle de 2008, le meurtre en plein été à Lagnieu dans l'Ain d'un petit garçon de 11 ans prénommé Valentin, tué par un malade mental qui s'appelle Stéphane Moitoiré. Et je vous ai raconté le débat qui a secoué cette enquête et divisé les médecins psychiatres jusqu'à la cour d'assises. Moitoiré est-il, oui ou non, schizophrène? Sur 10 psychiatres experts consultés, 4 ont dit que oui et 6 autres ont dit que peut-être il était schizophrène, mais que son discernement n'était pas aboli au moment des faits. Il a donc été jugé et condamné et actuellement, à l'heure où je vous parle, il est toujours en prison. Et je suis avec l'un de ces psychiatres, le premier à avoir détonné, le docteur Paul Bensoussan. Vous avez été le premier à dire que Moitoiré était schizophrène contre vos deux confrères avec lesquels vous étiez censé prendre une décision collégiale. Juste comme ça, à titre d'introduction, comment est-ce que ça se passe, une expertise psychiatrique? Là, vous êtes trois à être désignés sous forme d'un collège. Vous le voyez tous les trois en même temps?
Non, nous avons rencontré en même temps Noëlla Ego, tous les trois, mais nous avons rencontré séparément Stéphane Moitoiré. L'une d'entre nous l'a vue seule, et Serge Bornstein et moi-même l'avons rencontré ensemble.
Pendant combien de temps est-ce que vous le voyez?
Nous l'avons vu à deux reprises. Le premier entretien a duré 3 heures. Le second, je dirais, 2 heures. Mais surtout, ce qui a été terrible, c'est l'impression que à aucun moment, et quelle que soit la façon dont sa folie pouvait éclater, un consensus n'a été possible au sein du collège.
Entre vous trois, avant d'aller jusque-là, comment est-ce que s'établit, pardon de vous demander un peu de vulgarisation, mais un diagnostic de schizophrénie? Comment est-ce que vous pouvez savoir, vous, psychiatre, que le monsieur qui est en face de vous est schizophrène? Est-ce que vous lui faites passer, par exemple, des choses comme des tests?
Alors c'est une excellente question parce que en France, vous voyez, Christophe, la plupart se réfèrent à leur expérience. C'est-à-dire que on est dans une psychiatrie qui n'est pas scientifique au sens de ce que je dis n'est ni vérifiable ni réfutable. Et aujourd'hui, l'école de psychiatrie moderne se réfère à ce qu'on appelle des critères diagnostiques qui ont l'inconvénient d'appauvrir un tout petit peu la clinique dans la richesse de description, mais par contre d'avoir une bonne concordance diagnostique. C'est-à-dire que des psychiatres différents faisant l'effort de se référer à ces instruments de diagnostic posent en général le même diagnostic.
Ces instruments consistent en quoi, en gros? Ce sont des tests que vous faites passer. Il y a un test qui est connu qui s'appelle le test de Rorschach. Ce sont des taches d'encre réparties sur une feuille de papier. Selon ce qu'on lit dans ces taches d'encre, au fond, on a une lecture de la réalité qui est différente. Et ceux qui voient des monstres là où vous voyez une souris sont schizophrènes.
Alors même pour le Rorschach, on a des écoles psychanalytiques où vous apprenez beaucoup plus sur l'interprétant que sur l'interprété.
Oui.
C'est-à-dire il vous dit ce que lui s'imagine du patient à travers son interprétation. Et vous avez l'école américaine qui, elle, se réfère encore une fois à des choses objectives. Mais là, je ne faisais pas allusion au Rorschach, mais tout simplement à des critères diagnostiques qui sont... C'est un terme consacré robuste, c'est-à-dire qui résiste bien aux différents examinateurs. Et ça veut dire que les critères qu'on retient pour poser le diagnostic de schizophrénie, en général, conduisent à une concordance, c'est-à-dire à des avis
ils sont incontestables.
Comparables. Ils sont incontestables.
Vous pouvez me donner un exemple de critère pour qu'on comprenne bien quel est un critère robuste.
Hallucination auditive et attitude d'écoute. Ça veut dire que vous êtes en face de la personne... Et que attitude d'écoute, ça veut dire que vous voyez clairement qu'il entend des voix. Vous lui demandez ce qui se passe, pourquoi il s'interrompt brusquement dans son discours, et il vous dit, quand il vous le dit, qu'il entend des voix qui le menacent. Nous sommes deux au parloir de la prison, s'il entend des voix et que c'est aucun de nous deux, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas là, et qui n'est que dans son imagination malade.
Moitoiré fait ça.
Moitoiré avait peu d'hallucinations. Il avait en revanche un délire désorganisé qui fait partie des critères aussi, qu'on appelle paranoïde, c'est-à-dire non structuré, pas logique, pas systématisé, un vaste délire persécutif et imaginatif, et qui ne datait pas exactement du meurtre du petit Valentin, puisque nous serons, après avoir remis notre rapport, nous allons être missionnés pour un complément d'expertise, et ça, écoutez bien Christophe, c'est fascinant, en 1990. C'est-à-dire presque 20 ans avant le meurtre de Valentin. Stéphane Moitoiré est arrêté par les gendarmes, il est recherché pour insoumission, il ne s'est pas présenté pour entrer sous les drapeaux, et il explique que Chirac est à ses trousses, que les mirages de l'armée de l'air française le survolent, qu'il est en danger de mort, qu'il doit rencontrer le pape. 1990. Les gendarmes, qui ne sont pas psychiatres, écrivent sur le rapport « sujet complètement délirant » et le laissent repartir.
Pour vous, lorsque s'achève cette expertise, Moitoiré coche toutes les cases de la schizophrénie.
D'une schizophrénie incontestable ayant débuté à l'adolescence, à évolution déficitaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'évolution déficitaire, c'est-à-dire que le sujet donne l'impression de se vider. Tout à l'heure, vous avez dit dans votre résumé, Stéphane, vous avez employé un terme parfaitement approprié, vous avez dit « il se remplissait du délire de sa compagne ». Donc ce sont des sujets qui donnent l'impression d'être des coquilles vides. Et la particularité de cette forme de schizophrénie, qu'on appelle hébéphrénie, c'est de débuter très tôt à l'adolescence. Sa mère, j'ai étudié absolument tous les procès-verbaux. Sa mère disait qu'à l'âge de 16 ou 17 ans, il prenait des bains qui débordaient parce qu'il s'absorbait dans des prières mystiques, il allumait des bougies, il pensait qu'on empoisonnait ses aliments. Il délirait déjà à l'âge de 16 ou 17 ans, avant même sa rencontre avec Noëlla Hego.
Alors, à partir de quand est-ce que vous réalisez que les deux psychiatres avec lesquels vous êtes censé rendre un avis de consensus, on ne vous demande qu'un seul rapport à tous les trois, vous êtes censé vous mettre d'accord comme on le fait toujours quand on nomme un collège d'experts psychiatres. À partir de quand est-ce que vous apercevez que les deux autres sont pas du tout sur la même ligne que vous ?
Alors on s'en rend compte tout de suite en fait, parce que dans notre désaccord vont se mêler des arguments d'ordre technique, ça ce sont les plus respectables, ceux qui sont débattus devant la cour d'assises et qui élèvent le débat puisque nous parlons de notre science, de notre art, et puis des arguments d'ordre idéologique. Et il y a parmi nous l'une des trois, je ne la nomme pas par courtoisie, qui est contre ce qu'on appelle l'abolition du discernement, autrement dit l'irresponsabilité pénale.
Elle est contre politiquement, quoi ?
Idéologiquement. Pourquoi ? Parce que ça ramène le délirant dans la réalité. Donc c'est comme si on faisait de la cour d'assises une espèce de psychodrame thérapie de groupe.
Oui.
Et deuxième argument, c'est nécessaire pour que la famille de la victime puisse faire son deuil.
Ce qui n'est peut-être pas faux.
Alors ce n'est peut-être pas faux,
mais c'est pas votre propos de psychiatre.
Premièrement,
expert.
C'est pas la vocation du procès pénal. Imaginez d'ailleurs par hypothèse qu'une cour d'assises prononce un acquittement. Vous imaginez dans quel état sort la famille de la victime. Donc ça ne peut pas être le propos du psychiatre. Et puis et d'autre part et surtout, des experts qui ont ces positions-là devraient-ils faire de l'expertise alors qu'on connaît leur point de vue avant même qu'ils aient rencontré
l'accusé. C'est-à-dire, ce psychiatre-là qui va emmener le docteur Bornstein avec elle contre vous, dans ce collège d'experts, cette psychiatre est connue pour être opposée à l'idée d'un discernement.
Elle le dit.
D'une abolition du discernement.
Elle le dit, elle me l'a écrit, alors pas dans le rapport, mais dans une correspondance entre nous, où elle s'indignait du fait que j'étais partisan de l'irresponsabilité, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Des malades mentaux comme ça, on n'en voit pas deux dans toute une vie d'experts. C'est l'étalon de la folie, Stéphane Moitoire, et c'est difficile de faire pire. Donc, c'était très difficile là, de nier le diagnostic. Et puis, ce qu'il faut comprendre, et puis je vous rends tout de suite le micro, c'est que mes deux acolytes sont les deux seuls des 10 psychiatres à avoir nié le diagnostic.
Alors, il va y avoir donc un deuxième collège qui va vous donner vous raison totalement, qui est amené par le docteur Zaguri, qui lui aussi est comme vous un expert psychiatre national, reconnu, qui a rencontré la plupart des grands tueurs et expertisé la plupart des grands tueurs français. Donc là, vous dites quoi? Vous dites ouf quand même quand le collège de Zaguri arrive aux mêmes conclusions que vous?
Je dis même pas ouf, parce que dans mon esprit, il faut croire que j'ai encore une solide dose de naïveté malgré mon âge, dans mon esprit il n'y avait pas de doute, donc je pensais que mes deux collègues étaient fourvoyés, j'avais plaidé pour que nous puissions rendre compte de nos divergences dans un rapport unique, ce qu'ils nous ont refusé.
Donc vous avez fait deux rapports.
J'ai fait un rapport individuel pour la première fois de ma vie, j'espère de tout cœur que ce sera la dernière. Mais quand j'ai été rejoint par les trois autres, pour moi c'était pas un soulagement, c'était une évidence absolue. Et ils ont d'ailleurs très solidement argumenté en disant les deux autres ne se contentent pas de nier le lien entre la pathologie et le meurtre, ils vont jusqu'à nier la pathologie.
On va marquer une pause et se demander en fait ce que vaut votre métier finalement. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, est-ce que les experts psychiatres ont encore leur mot à dire dans le monde judiciaire après la pub?
Christophe Ondelat vous raconte aujourd'hui l'affaire Moitoiré, une affaire criminelle de 2008, assez controversée. Est-ce que Stéphane Moitoiré est fou? C'est la grande question du procès.
Europe 1, Ondelat raconte.
Je vous ai raconté tout à l'heure une affaire criminelle de 2008, le meurtre du petit Valentin à Lagnieu dans l'Ain, en plein été, un petit garçon de 11 ans qui est tué par un malade mental qui s'appelle Stéphane Moitoiré. Et je vous ai raconté le débat qui a secoué toute l'enquête jusqu'à la cour d'assises et qui a opposé les médecins psychiatres. Moitoiré était-il schizophrène? Tous n'ont pas répondu que oui. Et son discernement était-il aboli au moment des faits? Là, seulement 4 psychiatres ont répondu qu'il l'était. 6 ont dit qu'il ne l'était pas. En conséquence de quoi, Moitoiré a été poursuivi devant la cour d'appel et condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 20 ans. Et actuellement, il est en prison. Les psychiatres experts, docteur Bensoussan, vous étiez, vous, l'un de ces psychiatres qui, dès le début, a dit « il est schizophrène, son discernement était aboli, il faut l'envoyer à l'hôpital, il ne pourra pas y avoir de procès ». Les psychiatres sont au cœur du procès pénal aujourd'hui. Leur avis est essentiel à la décision de justice. Mais est-ce qu'au fond, ce qu'on apprend de l'affaire Moitoiré, ça n'est pas que votre science, pardon de dire ça comme ça, parce que vous avez fait 9 années d'études, les psychiatres sont considérés comme l'élite de la médecine française, mais c'est une science qui apparaît extrêmement molle.
Absolument. Vous savez, Minkowski disait la psychiatrie est la plus technique des sciences humaines, mais la plus humaine des sciences. Et effectivement, vous avez raison, Stéphane, c'est une science...
Christophe, appelez-moi Christophe, pardon. Ça me fera plaisir.
C'est le lapsus. Oui, j'entends que c'est le lapsus avec notre criminel
avec
du jour.
Avec Moitoiré, c'est pour ça.
Non, pardon. Oui.
Disais Minkowski.
Voilà, la plus humaine des sciences, mais la plus technique des sciences humaines. C'est-à-dire que nous sommes maintenant parvenus à un niveau en psychiatrie où, si nous faisons l'effort de nous référer aux critères en vigueur, en principe, nous devons parler le même langage. Mais quand l'idéologie s'en mêle et quand on n'exige pas des experts psychiatres qu'ils disent leurs critères diagnostiques, c'est-à-dire vous dites que cette personne n'est pas schizophrène, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous dites ça? Eh bien, on arrive à cette espèce de confusion qui a noyé les jurés, parce que quand vous entendez 10 experts vous dire à la suite les uns des autres dans la journée, il est fou un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, les jurés n'y comprennent rien et se disent une seule chose, il est très bien là où il est. Il est bien.
Il faut l'enfermer. Il a tué ce petit garçon et il faut l'enfermer. Est-ce que ce qui, au fond, vous sépare, vous oppose, vous
et les autres. Est-ce que c'est ce qui coupe la psychiatrie en deux depuis l'après-guerre ? Psychiatrie contre antipsychiatrie, psychanalyste contre psychiatre clinicien, partisans des médicaments contre partisans de la thérapie couchée sur un fauteuil à raconter sa vie.
Oui, il est certain que le courant psychanalytique s'est de très longue date insurgé contre l'idée d'abolition du discernement, autrement dit d'irresponsabilité pénale. Mais il faut savoir que depuis l'Antiquité, on ne juge pas les fous. Dans le Talmud, on ne jugeait pas les fous. Dans le droit romain, on ne jugeait pas les fous. C'est, comme disait Yves Lemoine, magistrat et historien du droit, le malheur de leur état. Ils sont fous, il faut les soigner, ils ne peuvent pas rendre compte de leurs actes devant la justice. Mais là, il y a eu quand même une magnifique contradiction pendant le procès. Mes deux collègues, dont je vous ai dit qu'ils avaient contesté la psychose, premièrement, n'ont pas discuté la simulation. Il faut savoir que nous étions face au roi d'Australie, à la tête d'une armée de 30 000 volontaires interplanétaires, reçus au Vatican par Jean-Paul II, par Benoît XVI, poursuivis par tous les puissants de ce monde. Mais s'il n'est pas fou, alors c'est un simulateur. La thèse de la simulation n'a pas été discutée. Première contradiction dans le rapport. Deuxième contradiction, le président à la cour d'assises d'appel s'adresse à ma collègue, celle qui avait dit que Stéphane Moitoiré n'était pas psychotique, et il lui pose cette question-là de la façon suivante, là je vous le dis au magnétophone. Écoutez, madame l'expert, je ne vous cache pas qu'on est tous un petit peu perdus. Maintenant, vous allez nous dire, vous allez répondre simplement à ma question. Moitoiré, pour vous, il est bien psychotique ? Oui, monsieur le président. Je vous rappelle que non seulement elle a écrit le contraire, mais on s'est séparés sur le contraire. Et sa psychose, c'est bien la paraphrénie ? Oui, monsieur le président. Voilà, ça s'est acté, ça s'est passé exactement comme ça. Mais il n'y a pas eu un avocat qui est monté sur la table en disant « Enfin, c'est pas ce que vous avez écrit ».
Est-ce que, au fond, ces débats qui agitent votre métier depuis des décennies ne se trouvent pas aussi confrontés à une époque qui ne peut plus accepter, on le voit par le rôle que les politiques, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de raconter dans cette affaire, mais Rachida Dati qui était garde des Sceaux, puis Nicolas Sarkozy qui était à l'époque ministre de l'Intérieur et qui allait être candidat à l'élection présidentielle, sont intervenus tous les deux pour dire « il faut le juger, pour la famille du petit Valentin ». Est-ce que ça n'est pas ça qui, aujourd'hui, vient percuter la psychiatrie et l'espèce de consensus qui régnait depuis, vous le dites alors, depuis l'Antiquité, qu'il ne fallait pas juger les fous?
Alors, je suis absolument d'accord avec ça, et l'opinion a l'impression que si un fou est déclaré, un fou criminel est déclaré irresponsable, eh bien c'est une sorte de cadeau qu'on lui fait. On va le soigner alors qu'il a tué un enfant dans des conditions absolument atroces, un crime immotivé, absurde, d'autant plus révoltant qu'il est absurde et incompréhensible. Et surtout, il y a cette idée qui est très répandue que s'il rentre à l'hôpital psychiatrique, il sera peut-être dehors dans quelques mois. Ça, je voudrais quand même dire à nos auditeurs que c'est une idée complètement fausse et que avant de trouver, si Stéphane Moitoiré avait atterri à l'hôpital psychiatrique, avant de trouver un collège de 3 psychiatres qui disent qu'il n'a plus de dangerosité,
il se serait collé du temps.
Oui. C'est beaucoup plus peut-être qu'en prison.
Merci beaucoup. On aurait pu parler encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Paul Bensoussan, merci en tout cas d'être venu éclairer cette histoire tout à fait passionnante.
Merci Christophe Ondelat. On vous retrouve lundi à 14h avec une nouvelle histoire.